Session de philosophie sur la liberté par le père Philippe à Saint-Jodat, le 31 août 1988, 8e conférence.
Troisième jour de la session, nous allons entrer dans le point de vue de l'expérience et de la philosophie. Après avoir regardé ce que quelques grands philosophes et théologiens ont dit. Avant, je cite encore, puisque Sartre est le dernier, je cite encore quelques textes de Sartre, de l'être et du néant. Je crois que c'est important. Dans ces conditions, la liberté ne saurait être rien d'autre que cette néantisation. Nous avons pu alors déterminer, à partir d'analyses comme celle de la mauvaise foi, que la réalité humaine était son propre néant. Être pour le pour soi, c'est néantiser l'en soi qu'il est. L'en soi, c'est le manche à balai. C'est ce qu'il dit Sartre. En soi, c'est l'étang. Et le pour soi, c'est la conscience qui permet de néantiser l'en soi et de découvrir par le fait même ce qu'est la liberté. Mais pas commode à bien comprendre Sartre, vous savez. Encore ce petit texte, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est dit ici, et je crois que c'est ça qui compte. Dans ces conditions, la liberté ne saurait être rien d'autre que cette néantisation. Je vous lis encore ce passage, mais ces remarques ne sont pas encore ce qui nous importe particulièrement. Elles n'ont qu'une portée négative. L'étude de la volonté doit nous permettre, au contraire, d'aller plus avant dans la compréhension de la liberté. Et c'est pourquoi ce qui nous frappe d'abord, c'est que si la volonté doit être autonome, il est impossible de la considérer comme un fait psychique donné, c'est-à-dire un en-soi. Elle ne saurait appartenir à la catégorie des états de conscience définis par le psychologue. Ici, comme partout d'ailleurs, nous constatons que l'état de conscience est une pure idole de la psychologie positive. La volonté est nécessairement négativité et puissance de néantisation, si elle doit être liberté. Je crois que ça, c'est très important. La volonté est nécessairement négativité et puissance de néantisation, si elle doit être liberté. Mais alors, c'est le négatif qui prime. L'affirmation positive, c'est l'en soi. Et Sartre a une horreur de l'en soi. L'en soi est rejeté. On doit découvrir alors au contraire cette capacité de néantisation. C'est très difficile de savoir ce que représente la néantisation. Hein. C'est pas commode. Ne cherchez pas trop. La volonté est nécessairement négativité et puissance de néantisation, si elle doit être liberté. Mais alors, nous ne voyons plus pourquoi on lui réserverait l'autonomie. On conçoit mal, en effet, ces trous de néantisation. Je comprends qu'on les conçoit mal. On conçoit mal, en effet, ces trous de néantisation qui seraient les volitions et qui surgiraient dans la trame par ailleurs dense et pleine des passions et du pathos en général. Le pathos grec, celui qui pâtit. Si la volonté est néantisation, il faut que l'ensemble du psychisme soit semblablement néantisation. D'ailleurs, et nous y reviendrons bientôt, où prend-on que le fait de passion ou que le pur et simple désir ne soit pas néantisation. La passion n'est-elle pas d'abord projet et entreprise? Ne pose-t-elle pas justement un état de choses comme intolérable et n'est-elle pas contrainte de ce fait que prendre du recul par rapport à lui et le néantiser en l'isolant et en le considérant à la lumière d'une fin, c'est-à-dire d'un non-être? Et la passion n'a-t-elle pas ses fins propres qui sont précisément reconnues dans le moment même où elle les pose comme non-existantes? Et si la néantisation est précisément l'être de la liberté, comment refuser l'autonomie aux passions pour l'accorder à la volonté? Mais il y a plus. Loin que la volonté soit la manifestation unique, ou du moins privilégiée, de la liberté, oui, la manifestation unique, ou du moins privilégiée de la liberté, elle suppose au contraire, comme tout événement du pour-soi, le fondement d'une liberté originelle pour pouvoir se constituer comme volonté. La volonté, en effet, se pose comme décision réfléchie par rapport à certaines fins. Mais ces fins, elle ne les crée pas. Elle est plutôt une manière d'être par rapport à elle. Elle décrète que la poursuite de ses fins sera réfléchie et délibérée. Alors, un peu plus loin. Mais si nous ne voulons pas tomber dans l'erreur et que nous dénoncions plus, dans l'erreur que nous dénoncions plus haut, et considérer ses fins transcendantes comme pré-humaines, et comme une limite a priori de notre transcendance, nous sommes bien obligés de reconnaître qu'elles sont la projection temporalisante de notre liberté. La réalité humaine ne saurait recevoir ses fins, nous l'avons vu, ni du dehors, ni d'une prétendue nature intérieure. Elle les choisit, et par ce choix même, leur confère une existence transcendante, comme la limite externe de ses projets. De ce point de vue, si l'on entend bien que l'existence du Dasein précède et commande son essence, la réalité humaine, dans et par son surgissement même, décide de définir son être propre par ses fins. C'est donc la position de mes fins ultimes qui caractérise mon être et qui s'identifie au jaillissement originel de la liberté qui est mienne. Et ce jaillissement est une existence. Vous voyez, il tourne en rond. C'est ce qu'il faut dire. Hein. Alors, dernier point, la liberté n'est autre que l'existence de notre volonté ou de nos passions. En tant que cette existence est néantisation de la facticité, c'est-à-dire celle d'un être qui est son être sur le mode d'avoir à être. Sur le mode d'avoir à l'être. Donc, existence, néantisation, être pour soi, conscience. Il tourne autour de tout ça. Vous avez donc une conception négative de la liberté. Alors, avant de commencer, je résume ce que nous avons vu, si on peut le résumer. C'est quand même intéressant. Une topique est faite pour une réflexion. Qu'ont dit les grands philosophes sur la liberté? Alors, nous avons vu Platon, Aristote, c'est quand même les deux grands. Épictète, premier grand philosophe de la liberté. Augustin, Thomas d'Aquin. On l'a pas vu, Thomas d'Aquin, vous savez rien, je le mets ici. Puis alors, libération de la théologie, Descartes, mais je prends exprès, hein, un schéma évolutionniste, hein. Descartes, Sartre. Sartre, on se regarde dans la glace pour voir où va l'évolution. Vous vous souvenez, ceux qui ont vu l'exposition sur l'évolution à Paris, il y a quelques années, qui était très intéressante. Très intéressante. On terminait par une grande glace. On se regardait. On était le terme de l'évolution. C'est pas bête, hein? Mais c'est tout dire. On commençait par des tout petits animaux. Juste avant la glace, il y avait une merveilleuse fouille d'un cimetière. Admirable. Puis, terminé, on se regardait dans la glace. C'est très astucieux. Bon, alors, voyez. C'est difficile d'évoluer encore après Sartre. Je ne sais pas si la néantisation évolue. Sartre, point terminal. Sartre se regarde. C'est dommage que l'humanité ne s'est pas néantisée avec Sartre. Je crois qu'il l'aurait souhaité. Je crois que dans Sartre, il y a un sadisme intellectuel extraordinairement poussé. C'est maladif. Je crois qu'il faut le considérer comme maladif. Les gens qui se plantent en Sartre, au bout d'un certain temps, sont malades. Il n'y a pas moyen autrement. Alors, en lire, ça fait du piment. Mais pas plus. En lire de temps en temps, vous voyez. Très bien. Il faut s'accrocher. Bon. Hésiode parle pas beaucoup de liberté. Platon, libération du corps par la mort. Face à la mort, on a. C'est l'âme qui est le support de la libération. Aristote. Donc vous voyez, on a une conception, on dirait, une conception de la liberté au niveau de la contemplation de l'âme. Puisque si l'âme se libère du corps, c'est pour contempler. Conception, on dirait, très ontologique de la liberté. Aristote, liberté. L'homme libre. Je crois que c'est ça, Aristote. L'homme libre. Vous voyez, on revient à l'homme. L'homme libre. L'homme libre opposé à l'esclave. L'esclave par nature, puisque c'est celui-là qui est intéressant. Celui qui n'atteint pas la prudence. La non-prudence. Donc, la liberté se ramène à la prudence. Vous voyez ? Elle s'appuie sur la prudence. C'est l'homme prudent qui est capable de poser un acte libre et qui se libère de l'esclavage. Et nous avons en éthique le point de vue de la liberté, l'acte libre. Voilà. L'acte libre opposé ou parallèle à l'acte volontaire. Épictète considère que L'acte libre, la liberté. Ah, il reprend la liberté, ça c'est très net. La liberté égale la personne. La proie Iresis. La liberté, le choix. Le choix libre, c'est la liberté. Augustin et Thomas d'Aquin, le libre arbitre et Thomas d'Aquin, l'acte libre. Aristote. Descartes, la liberté, ça se retrouve, c'est la liberté d'Épictète. Attendez, mettons les lignes de force. C'est intéressant de voir ça, du reste. La liberté, Sartre, la liberté. Descartes, la liberté infinie. Le point de contact dans l'idée de liberté. Le nœud, le point de contact entre homme et Dieu. C'est l'idée de liberté. Homme, ressemblance avec Dieu. Vous voyez ? La liberté, c'est l'ouverture à l'égard de Dieu. Si l'homme n'était pas libre, il n'y aurait pas de contact avec Dieu. Le point de contact d'insertion avec Dieu, c'est la liberté. C'est une vision très très particulière, très intéressante, parce qu'elle rejoint un peu Épictète, puisque conformité à la volonté de Dieu. De côté, la liberté rejoint l'absolu. Vous voyez, la liberté, c'est l'absolu. Puisque l'idée de liberté rejoint avec Dieu, donc c'est l'absolu. Il y a quelque chose d'absolu. Sartre, puisque Dieu n'existe pas, la liberté va se replier sur elle-même. L'absolu d'une liberté qui se replie sur elle-même, la néantisation. Point terminal. La néantisation est le seul absolu chez Sartre. Oui, c'est assez curieux et assez intéressant quand on regarde cette petite topique comme ça, simplement. Vous voyez, on voit, ça c'est un fait. On voit que la liberté, on pourrait dire, chez Hésiode, liberté vécue. On n'en parle pas. On n'en parle pas, on vit. On vit, c'est tout. Avec Platon, on commence à en parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a un poids terrible d'aliénation. Platon ne parle pas d'annihilation, mais c'est le poids du corps. Et comme c'est curieux, hein, c'est lorsque, de fait, on comprend qu'il y a en nous un poids terrible qui vient nous limiter, qu'on éprouve le besoin de se libérer. Par la libération, la liberté va être thématisée. Thématiser, c'est-à-dire regarder en face. Elle ne sera plus le vécu souterrain dont on ne parle pas. On va la regarder. On va regarder la liberté. Comme un animal particulier qui surgit tout d'un coup à des heures bien précises. Vous voyez ? Donc, C'est curieux, ça. Et c'est le premier, c'est ça qui est intéressant, par la libération du corps. Théologie de la libération. Philosophie de la libération du corps. Platon. Aristote. Ah, pas du tout. Je ne peux parler de la liberté qu'en référence avec l'homme. Alors, à partir de là, on a, vous voyez, libération, je dirais, la liberté vécue, on n'en parle pas. La libération, le point de vue, l'acte libre, l'homme libre. Donc, libre qualifie la liberté comme qualité, modalité. Épictète, on veut donner à la liberté toute sa signification pour elle-même. Et donc, l'acte libre, dans l'acte libre, libre absorbe l'acte. Vous voyez ? La qualité devient substance. Ce qui qualifie l'acte est regardé pour lui-même comme étant la chose principale. D'où on regarde la liberté pour elle-même. Et la liberté est regardée alors comme un absolu. Ça, je crois que c'est très important. Saint Thomas et Augustin sont des théologiens. Problème de la foi. Que vient faire la foi par rapport au problème de la liberté? Grand aspect. Hein. Que vient faire la foi par rapport au problème de la liberté? On va regarder le fondement de la liberté. Le libre arbitre. C'est le fondement. D'où provient que je suis capable de poser un acte libre. C'est que j'ai le franc arbitre, le libre arbitre. Oui, c'est l'œuvre du théologien de chercher les fondements, les causes secondes. Causes secondes de l'acte libre. C'est l'acte libre, je cherche la source de l'acte libre, la source. Et je vois que la source première de la liberté, c'est Dieu. Le libre arbitre, source de l'acte libre, source de l'acte libre, ce n'est plus l'acte libre que je regarde en premier lieu, c'est beaucoup plus la source de l'acte libre. Et saint Thomas, lui, va insister beaucoup sur l'acte libre et sur la source de l'acte libre, les deux. Et on regardera Dieu comme source première de la liberté. Descartes, qui dépend des théologiens et qui veut se libérer des théologiens, demeure dans cette perspective que on va regarder l'idée de liberté comme le lien entre Dieu et l'homme. Et c'est l'idée de liberté. Et de cette idée de liberté, on va essayer, avec Sartre, de regarder la liberté dans son fondement premier, l'aliénation. Il y a une continuité, vous voyez. Au fond, c'est une modulation autour de l'acte libre et de la liberté. On n'a pas du tout, on n'a pas défini la liberté, personne. Pas du tout. On tourne autour. Réfléchissez sur ça parce que c'est intéressant. Je crois qu'on touche. On pourrait, il y en a d'autres qu'on pourrait prendre. On pourrait prendre la naissance du libéralisme, au point de vue politique. Vous voyez, Hobbes. J'avais hésité. C'est la naissance du libéralisme, c'est très intéressant. Mais au point de vue acte libre, dans Hobbes, c'est très simple. Libre. Celui qui ne connaît pas d'entrave. C'est purement négatif. Et c'est ça qui me frappe. C'est que, pratiquement, quand on parle de la liberté, si on veut la préciser, on prend tout de suite un aspect négatif. Je suis libre, pas d'entrave. Un gosse dit ça. Et c'est cette néantisation. Je suis libre, je ne connais pas d'entrave. Quand vous dites je suis libre, je ne connais pas d'entrave, vous regardez la liberté par rapport à l'extérieur. Pas connaître d'aliénation. Et ce qui est très curieux chez Sartre, c'est que la négation qui définit la liberté d'une façon extrinsèque va définir la liberté d'une façon intrinsèque. Très, très curieux. La néantisation. Alors, pourquoi, quand il s'agit de Sartre, l'aspect extérieur devient ce qu'il y a de plus immanent? Mais c'est toujours par la négation que je définis la liberté. De ne pas avoir d'obstacle ou la néantisation. C'est ça la constante. Sauf, alors il faut quand même le reconnaître, sauf quand il s'agit d'Aristote, l'homme libre et l'acte libre. Quelque chose de très particulier. Parce que même pour Épictète, l'acte libre, c'est l'acte dans lequel il y aura une immanence parfaite, sans aucune contrainte. Quel est le lieu où il n'y a aucune contrainte? C'est la conformité à la volonté de Dieu. C'est dans cette conformité à la volonté de Dieu qu'il n'y aura aucune contrainte. Donc, vous voyez, c'est toujours se libérer de toute contrainte pour trouver la liberté à l'état pur. Retrouver la liberté à l'état pur. Pour Descartes, trouver la liberté à l'état pur, c'est l'idée de liberté. Et pour Sartre, trouver la liberté à l'état pur, c'est trouver le fondement de la liberté, la néantisation. C'est un poème autour de la poser un acte dans lequel il n'y a pas de contrainte. Je crois que c'est ça. Vous voyez, si j'essaie de comprendre ce qui unit tous ces philosophes et ces théologiens si divers, c'est ça. Sauf la pensée d'Aristote et Thomas d'Aquin et Augustin. Alors maintenant, nous allons tout de suite commencer la réflexion philosophique. Donc, hein, je change de vitesse. Comprenez bien, la seconde source de la philosophie, c'est l'expérience. Et avant l'expérience, je regarde le langage. Notre monde d'aujourd'hui nous oblige à ça, puisqu'il y a une philosophie du langage. La philosophie du langage ne peut être qu'un signe, mais c'est un signe. Le langage est un signe. Or, qu'est-ce que je vois? Je vois libération, liberté, libre. Je dois commencer par réfléchir là-dessus pour ne pas me mettre dans une fausse piste. Je suis persuadé, hein, faisons attention, hein, c'est pas un préjugé, mais j'ai dit que toute philosophie exhaustive doit commencer par l'expérience. Avez-vous l'expérience de la libération? Avez-vous l'expérience de la libération? Quel acte posez-vous pour vous libérer dans votre vie? Ce matin, vous êtes libéré ce matin. Vous êtes libéré de quoi? De la douceur du sommeil. Vous êtes réveillé. Vous êtes réveillé. Quand on se réveille, qu'est-ce qu'il y a? On a conscience quand même de ça. Réfléchissez sur ce que c'est que se réveiller. C'est très important, dormir, réveiller. C'est quand même des actes que nous faisons une fois par jour, mais même quelquefois plusieurs fois par jour. Quand on subit des cours, on fait quelquefois cette expérience plusieurs fois. Quand on fait l'oraison, le matin, on fait quelquefois plusieurs fois par jour, on se replonge dans les sous-sommeils. Puis on se réveille. Se réveiller, c'est une libération. Tu vois, si vous considérez que se réveiller, c'est positif. Parce que pour certaines personnes, il vaut mieux dormir. Là, il y a deux spiritualités. Pour moi, la spiritualité de me réveiller est une libération. Le poids du corps. Je comprends très bien Platon. Si c'est une philosophie du rêve, vous voyez bien, faut se libérer, sortir de la caverne. Vous rêvez, vous êtes dans la caverne. Puis vous vous réveillez, vous sortez de la caverne. Le soleil. C'est pour ça que vous vous réveillez avec le soleil. On comprend très bien cette espèce d'adoration du soleil, vous voyez. On se réveille, oh le soleil. C'est lui qui m'a réveillé. S'il n'y avait pas eu le soleil, j'aurais continué de dormir toute la journée. Il y a des petits animaux comme ça qui se plongent en terre, vous savez. Et lui qui dort tout le temps, pendant tout l'hiver, il vaut mieux. Il fait froid. Quand il fait froid, on n'a pas envie de sortir de son lit. Hein. Et c'est pas du tout tort. Bon, première expérience de la libération, se réveiller. Il faut faire, la philosophie doit aller jusque-là. Parce que c'est l'expérience. Est-ce que ça vous dit quelque chose de la liberté? Se réveiller. Libération du corps. Oui, là je donne la main à Platon. Je comprends très bien que la philosophie commence à naître là. On se libère du corps, du poids du corps. Et si on est suffisamment réveillé, vraiment, on se réveille. Et vous voyez, la station, normalement, on dort étendue. Pas toujours. Il y a des gens qui dorment assis sur leur chaise. Parce qu'ils ont peur de s'étendre. Normalement, on se lève. C'est la station droite qui nous empêche de continuer de dormir. C'est plus difficile de dormir debout. Quand on est très fatigué, c'est pas arrivé. On peut marcher, vous savez, tout en marchant, on peut dormir. Comme des vieux chevaux. Libération. Donc, il y a une expérience. On sort d'un état non conscient. Ah, c'est intéressant, vers l'état conscient. Mais comme on est proche de Sartre, après tout, Sartre, c'est tout proche du sommeil. La non-conscience, c'est une néantisation. Vous voyez le primat de la négation? La non-conscience. C'est vrai, le sommeil, c'est la non-conscience. C'est l'abandon. Dans les bras d'Orphée, on s'abandonne. C'est merveilleux, on s'abandonne. Et quand on est très tendu, on n'arrive pas à s'abandonner. Et on cherche le sommeil ne vient pas. Hein? On a tous connu ça. Quand vous travaillez trop longtemps le soir, vous dites, attends, il faut dormir quand même. Hein? C'est raisonnable de dormir. Mais les 2h ou 3h du matin, vous avez de la peine. Composer quelque chose ce soir, quand vous faites quelque chose ce soir, ça fait la peine de perdre la conscience. Tout un travail de perdre la conscience. La néantisation, c'est pas si commode que ça. La néantisation, c'est perdre la conscience. Pour Sartre, c'est la conscience suprême. La néantisation. Je nie tout. Tout ce qui est autour de moi, je le nie. Et puis je deviens l'absolu. Qu'une seule chose intéressante, c'est mon sommeil. Voyez, la mère en face du sommeil de l'enfant, elle est tigresse. Charlie, mon petit, alors qu'il dormait si bien, surtout quand il est un peu malade. Quand un malade commence à dormir, oh, il dort. Vous savez, la page de l'évangile, là, Lazare est mort. Non, il dort. Mais s'il dort, il n'est pas mort. Il dort. C'est curieux, hein. Le sommeil est entre la vie et la mort. Et en même temps, c'est une douce mort. C'est très doux. Sartre ne dit pas que la mort, c'est la néantisation. Vous voyez, le non-conscience, la négation, puis la conscience. Mais pour nous, la non-conscience n'est pas la liberté, c'est l'abandon. Aristote définit le sommeil, le fait de remettre le corps au rythme de l'univers. C'est pas si bête. Quand vous dormez, votre corps se remet au rythme de l'univers. Alors quand vous êtes éveillé, vous avez votre propre rythme. Et c'est vrai, ça. On se remet au rythme de l'univers. Donc, première expérience de la libération, ça va pas très loin. J'ai conscience, je me mets debout. Et c'est dans cette conscience que va naître la liberté. Ah ! Mais au premier moment de votre libération, ordinairement, cette libération se fait grâce à un réveil ou grâce au soleil. Quand c'est le soleil, c'est très doux. C'est merveilleux. Quand c'est le réveil, c'est moins drôle. C'est violent. Vos libérations du matin se font par le réveil, par la violence. Va, lève-toi. Un acte impératif. Donc, expérience de la libération. Il y a d'autres expériences de la libération. Se libérer du joug de l'esclavage. Tentation par rapport à un règlement de vie. Ah, aujourd'hui, je vais montrer que je suis libre par rapport à ce règlement de vie. Je me libère. Hein? Premier acte de libération, Ève avec le serpent. Tous les actes de libération. Il y en a qui sont bons et qui sont mauvais. Mais vous voyez, la libération, c'est passer d'un état à un autre état. C'est un état de non-conscience à un état de conscience. On passe d'un état imparfait à un état parfait. C'est ça la libération. Passer d'un état parfait à un état imparfait, c'est pas une libération, c'est une aliénation. Donc on passe d'un état d'imperfection à un état parfait. Je considère qu'avoir conscience, c'est un état plus parfait que n'avoir pas conscience. Donc j'ai conscience de ça. Donc il y a une certaine expérience. Alors, deuxièmement, on reviendra à ça, hein, la libération. Maintenant, pas plus. C'est un état. Or, je veux savoir ce que c'est que la liberté. Un état ne me donne pas ce que c'est que la liberté. Parce qu'un état est toujours complexe. C'est un état existant. Or, l'état existant ne me permet pas d'aller plus loin. Je ne veux pas analyser. Mais c'est intéressant de voir ça. Voir que tout repose sur cet acte fondamental d'une libération. Tous les matins, je me libère. Jusqu'à jusqu'au moment où je ne me libérerai plus. Il arrivera un jour où je ne me réveillerai pas. Alors, si je suis croyant, je dirais que c'est pour une libération suprême. Si je ne suis pas croyant, c'est vrai. Il y a des morts violentes, et puis il y a des morts, on ne se réveille pas. Le coma. Puis tout d'un coup, ça cesse. Pas de libération ce jour-là. Et la libération tous les matins, tant qu'on est assez vivant. Maintenant, je regarde, parce que je veux savoir qu'est-ce que c'est que la liberté. N'oubliez pas, la question est ça. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce? Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce la liberté? Premièrement, si je dois dire, est-ce que la liberté existe? Oui, il y a un acte de libération. Donc la liberté existe. L'exister de la liberté, c'est cet acte de libération. C'est dans cette libération que je découvre l'exister de la liberté. Consciemment ou inconsciemment. Mais je me réveille pour ne plus être lié au sommeil. Et quand je fais des efforts pour lutter contre le sommeil, je sais que c'est l'aliénation la plus terrible, ça. On peut lutter contre la faim, ça va encore. Quand on dit ventre affamé n'a pas d'oreille, je dirais celui qui est fatigué n'a pas d'oreille. Quand on est pris par le sommeil, c'est très très difficile de lutter. Tous les ermites et tous les ascètes disent très que lutter contre le sommeil, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, c'est par le fait même, la libération qui me donne le plus de sens de cette existence de la liberté, c'est dans la libération que je découvre l'existence de la liberté. Première interrogation, l'existence de la liberté. Ensuite, je me pose, qu'est-ce que c'est que la liberté? Ah, où est-ce qu'il y a expérience? Y a-t-il une expérience de la liberté? Non. Il y a l'expérience d'acte libre. Alors ça, c'est très important. Très important. Quelle différence y a-t-il entre liberté et libre? Dans le langage, réfléchissons 2 minutes sur le langage. Vous voyez, c'est tout à fait analogue à quelque chose de bien connu. Blancheur, blanc. J'aime beaucoup de faire cette distinction. Elle est très vieille. Elle est grecque. Faisons attention aux formes abstraites et aux formes concrètes. C'est de la grammaire, ça, hein? Blancheur, c'est une forme abstraite. Vous n'avez jamais expérimenté la blancheur. C'est un idéal. Vous voyez les affiches. Vous voyez, on vend des produits. On aura la blancheur. Ce qui prouve que ces produits ne produisent rien. C'est que la blancheur n'existe pas. Il existe des murs blancs, des visages blancs, des chemises blanches, des pantalons blancs, des robes blanches. Tout ça, ça existe. Un paysage, la neige. Blancheur de la neige. Vous voyez, et vous dites la blancheur de la neige. Et pourquoi vous dites la blancheur de la neige? Vous dites beaucoup moins la blancheur du mur. Parce que quand vous voyez la neige, vous êtes dans un état de pureté du blanc tel que vous dites blancheur. C'est très curieux. Et ça, il faut réfléchir là-dessus, on n'y réfléchit pas. Et le philosophe exige d'y réfléchir. Dans le langage, vous avez des formes abstraites et des formes concrètes. Pourquoi? Il y a des langues. où la forme abstraite est beaucoup plus employée que la forme concrète. En allemand. En français aussi, mais en allemand surtout. En grec, très peu. La forme abstraite, c'est justement la thématisation. Parce que, vous voyez, le mur est blanc, le visage est blanc, la chemise est blanche. Ah, mais pas ta chemise, elle est plus blanche du tout aujourd'hui. Faut la laver. Avec le persil. Faut la laver. Indispensable. Vous voyez que blanc est relatif à un sujet. C'est le mur qui est blanc. Or, je veux savoir ce que c'est que le blanc. Et donc, je le regarde pour, elle, pour lui-même. Je passe de blanc à blancheur. C'est une abstraction. Et je suis conscient de ça. La blancheur, c'est le blanc en soi. S'il peut exister. Or, le blanc en soi n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le blanc est relatif à autre chose. Et le relatif, par définition, ne peut pas exister en soi. Donc blancheur n'existe pas. Personne d'entre nous n'avons fait l'expérience de la blancheur. Je crois que vous comprenez ça, c'est facile à comprendre. Hein. Tandis que vous avez l'expérience de tel blanc. Et si on a un œil de peintre, on voit très bien que le blanc, comme blanc, n'existe jamais. À l'état pur. Il y a toujours quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'à travers le blanc, on verra le rouge. À travers le blanc, on verra le violet. À travers le blanc, on verra tel ou tel aspect. C'est très curieux. Le blanc à l'état pur, la blancheur, ça n'existe pas. Ça existe dans les mots, dans le langage. Donc, c'est un être de raison. Blancheur. Regardez dans le dictionnaire. Et cherchez blancheur. Alors, j'aurais dû l'amener ici. Je n'ai pas vérifié, mais je suis sûr d'avance. La blancheur. Ce par quoi le blanc est blanc. Ça, la blancheur. Ce par quoi le blanc est blanc. Oui, donc ça définit très bien ce que c'est. De blancheur, on vous renvoie à blanc. Si le dictionnaire est intelligent. Si le dictionnaire n'est pas intelligent, il ne vous dira pas ça. C'est intéressant de voir les dictionnaires intelligents. L'abstrait se définit par le concret. Pourquoi ? Parce que je n'ai l'expérience que du blanc du mur, je le vois. Que du blanc de la chemise, je le vois. Le blanc, je le vois. Mais jamais seul. Vous voyez ? Et comme l'artiste a raison, il voit le blanc à travers. Où le blanc permet de toucher quelque chose. Le blanc à l'état pur n'existe pas. Donc, si je veux savoir ce que c'est que le blanc, je dirais, voyez, la blancheur. La blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Ah, blanc de blanc, vous savez, ça existe. Hein, ce par quoi le blanc est blanc. Très curieux, hein, ce par quoi. Qu'est-ce que c'est que ce par quoi ? C'est la forme en soi. C'est le principe. Un principe, c'est toujours ce par quoi. Donc, c'est quelque chose que l'intelligence saisit, mais que je ne peux pas expérimenter. L'intelligence saisit la blancheur, Pour moi, la blancheur a une signification. Oui, oui. Ce par quoi le blanc est blanc. Toutes les expériences de blanc que je fais, je les rassemble. Je les recueille dans la blancheur. Vous pourriez dire la même chose. Homme, humanité. Oui, il y a le journal. Mais le journal ne me dit pas très bien ce que c'est que l'humanité. Humanité, c'est ce par quoi l'homme est homme. C'est ça l'humanité. Ça s'oppose à animalité. Après, ils mettent humanité et en dessous, animalité. Ce par quoi l'animal est animal. Prenez toutes les formes. Alors, je dis pour ceux qui font un peu de métaphysique de saint Thomas, et c'est intéressant à voir dans le même sens, saint Thomas dira que SC, c'est l'abstrait de ENS. SC, être. On traduit être, c'est l'infinitif du verbe. SC. Et ENS, ce qui est. Le concret, c'est ens, c'est le participe. Il y a l'infinitif, le participe et le présent. Présent, ce qui est. Ceci est. L'étant, l'être. C'est le même verbe. C'est le même verbe sous trois formes différentes. Ceci est l'étant, le participe, et l'infinitif, l'être. L'être, vous ne l'avez jamais saisi, parce que c'est l'abstrait. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des réalités qui existent, des étants. Et puis si vous allez plus loin, vous avez ce qui est. L'expérience de l'être, mais donné dans le jugement d'existence. Ceci est. Je n'ai aucune expérience de l'être en dehors du jugement d'existence. Ceci est. Vous pouvez spéculer indéfiniment sur l'être. C'est une spéculation. Le vieux père Mandonné, un bon historien, disait « L'être, on le saisit quand on a 40 degrés de fièvre. » Alors on voit un petit truc qui se balade. Et la petite chauve-souris qui se balade, affolée. L'être. On ne sait pas ce que c'est. Pour venir, ceci est. Ça, c'est capital, hein, ce que je vous dis là. Pour l'hygiène de l'intelligence. La cérébralisation. Hein, les psychologues savent ce que c'est. La cérébralisation, c'est quoi? C'est quand on a 42 fièvres. Alors, on commence à tourner en rond autour de l'abstrait. On va faire la philosophie de la blancheur. C'est-à-dire, on fait la philosophie du cru et du cuit. C'est la même chose. Hein. Le cuit et le cru. Je peux très bien faire la philosophie de la crudité. Et puis ce qui est cuit, hein, alors, c'est pas la cuisson, l'abstrait, blancheur, blanc, être, essai, et ens, et ce qui est, i de quod est, en latin, i de quod est, le présent. Le verbe présent, c'est la seule chose que je touche et que j'atteins. Donc j'ai l'expérience. C'est la grandeur du présent. Le participe, c'est déjà quelque chose qui tend à être substantié. L'étant. Et l'être, l'infinitif. Le verbe joue le rôle de nom. C'est ça l'infinitif. Vous pouvez faire que le verbe, qui est tout le temps temps relatif à un nom se substantifie et devient un nom. C'est une drôle d'histoire, hein, comme c'est curieux le langage. C'est très très curieux ça. L'infinitif devient un nom. L'être est parfait. Vous pouvez très bien dire ça. La science de l'être. Tant que je cherche toutes les propriétés de l'être, vous faites d'un verbe qui est essentiellement relatif à un nom, vous en faites un substantif. Et comment faites-vous ça? C'est votre intelligence. C'est pas vous-même. Ah non, non, non. Celui qui est dans le concret sait très bien qu'on ne peut pas passer du présent à l'infinitif. Vous voyez, cette chose très curieuse, hein, c'est très curieux, c'est très important. L'intelligence éprouve le besoin de passer du concret à l'abstrait. Et alors, vous voyez, on fera des philosophies de liberté. On cherchera définitivement la liberté, mais vous n'avez aucune expérience de la liberté. Et donc, si vous voulez savoir ce que c'est que la liberté, revenez à l'acte libre. Autrement, vous serez obligé de regarder la statue de la liberté. Et la statue de la liberté ne vous dira pas ce que c'est que la liberté. Puisque à côté de la statue de la liberté, il peut y avoir des esclaves. La statue de la liberté ne me dit pas ce que c'est que la liberté. Elle me manifeste. Oui, c'est une manifestation. C'est une proclamation. C'est un idéal. Je substantifie un idéal par la statue de la liberté. Mais ça ne me dit pas ce que c'est que la liberté. Pour savoir ce qu'est la liberté, au plan philosophique, au plan réflexion, je dois revenir à l'acte libre. Voyez donc, j'ai deux sources pour comprendre ce que c'est que la liberté. La libération et l'acte libre. Ça, c'est quand même intéressant. Et ça, tout simplement, réflexion sur le langage. Alors ça, ça nettoie le terrain. Ça, c'est le bulldozer. Ça nettoie le terrain. Pff, là, là. Je vois que Platon a quelque chose d'intéressant. La libération. Et je vois qu'Aristote est revenu à l'acte libre. Aristote n'a jamais spéculé sur la liberté. Et dès qu'on a commencé à spéculer sur la liberté, on a pris la liberté comme un absolu. La Révolution française, puisqu'on va avoir le centenaire, la liberté. Hein, on voit ce que c'est, une statue. Prise de la Bastille, liberté. C'est très bien, je n'ai rien du tout contre le mot liberté. Mais je dis, faisons attention, c'est un idéal. Et comme l'idéal, par définition, il n'est jamais réalisé. Un idéal réalisé n'est plus un idéal. Alors on met un méta-idéal. Un méta-idéal, le surhomme. L'homme est usé. Faisons le surhomme. L'homme de demain, l'homme de l'an 2000. Oui, ça c'est quand l'idéal est usé. L'idéal, on ne l'atteint jamais, par définition, parce que l'idéal n'existe pas. Alors, c'est très bien de mettre comme idéal la liberté, très très bien. Je dirais, on ne l'aura jamais. Et c'est très grave de mettre la liberté comme idéal, ça prouve qu'on ne l'atteint jamais. Très curieux, ça, vous savez, c'est très intéressant de voir ces choses-là, parce qu'on voit très bien le moment où, pratiquement, on met en idéal ce qu'on ne vit pas. J'ai toujours très peur, hein, des gens qui ont un très grand idéal. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils font? On ne vit pas d'un idéal, on vit de réalité bonne. Donc je vis auprès d'un homme libre. Donc je vois que j'ai deux manières d'atteindre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? La libération et l'acte libre. Voilà les deux voies. Mais il faut toujours un bulldozer, hein, aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement d'opinions philosophiques, il faut pouvoir tout de suite, en réfléchissant sur le langage, qui est un signe, où il y a des fausses pistes, où il y a des vraies pistes, deux vraies pistes. Libération, acte libre. Je choisis l'acte libre et non pas la libération. Pourquoi ? Parce que la libération ne conduit qu'à un état. Et ne me dites pas ce que c'est que l'acte libre. Ne me dites pas ce que c'est que la liberté. C'est intéressant si on a le temps. On verra de l'acte libre la libération. Et on reviendra sur la libération. Mais la libération, c'est toujours quelque chose de second. C'est pas quelque chose de premier. Oui, j'ai l'expérience de cette libération tous les matins, mais c'est très vague, hein. Je n'y réfléchis pas tellement. Tandis que l'acte libre, ah oui. Alors, on va réfléchir sur cette voie d'accès, en respectant l'autre, et en comprenant que je ne supprime pas du tout le mot liberté, ce serait faux, mais je sais que plus je connaîtrai l'acte libre, mieux je connaîtrai la liberté. La liberté, c'est un full camp. L'horizon, l'idéal. Je parlerai de la liberté, c'est sûr. Dans le langage, on en parle tout le temps. Mais chaque fois, je corrige. Alors, on tendra à essayer de saisir l'idée. C'est encore mieux, l'idée de liberté. Vous voyez, la liberté, c'est déjà abstrait. Et l'idée de liberté, c'est au carré abstrait. Et Descartes n'a jamais pensé ça. Vous voyez, c'est affolant. Des philosophes qui n'ont plus les pieds sur terre. Vous voyez, liberté, c'est abstrait. Et l'idée de liberté, c'est encore plus abstrait. Parce que vous cherchez dans la liberté la formalisation de la liberté. Descartes le dit textuellement. Déjà, liberté, c'est une formalisation. Donc vous êtes en face d'une formalisation au carré. L'idée de liberté. Et les gens répètent sans savoir ce qu'ils disent. Je comprends très bien Socrate. Hein. Si Socrate revenait aujourd'hui, il dirait au philosophe, il arrêterait. Quand Lévinas parle, « Ah, monsieur le professeur, vous dites ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai fait une fois l'expérience à Fribourg. Il y avait un jeune orateur français, critique littéraire, merveilleux.